Bien, bien, bien. Bonjour à vous, mes petits hurluberlus pakistanais. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis présent pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC Vegas 21 Edwards contre Muhammad, ou comme on l'appelle au Québec, la carte où Charles Jourdain se bat. Fait qu'on va avoir mes analyses et prédictions complètes pour chacun des combats sur cette carte-là, incluant le main event, incluant le combat de Gavin Tucker, le combat de Misha Tsirkunov, parce qu'il y a aussi deux autres Canadiens sur la carte. Et bien sûr, quand on va y arriver, on va parler du combat de Charles Jourdain. Puis je sais que c'est ça que vous voulez entendre, fait qu'on va y aller vite avec les autres combats, mais il faut quand même s'attarder sur le main event de la soirée entre Leon Edwards et Belal Muhammad, parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas vu Leon Edwards se battre. Écoute, la dernière fois, tabarnouche, je suis en 2019, je pense que oui, parce que honnêtement, il était censé se battre direct au début là, de la pandémie, on s'en rappellera tous, à Londres, puis là, quand le monde au complet a fermé, il n'a pas été en mesure de faire la carte à Londres, puis ils n'ont pas été en mesure de rebooker l'événement là, à temps. Donc, Leon Edwards n'a pas pu se battre. Après ça, il a été booké 293 fois face à Khamzat Chimaev. Et puis, ben, ce qui est arrivé, ce qui est dû arriver arriva, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il est arrivé quelque chose, puis ce combat-là n'aura pas lieu finalement. C'est Belal Muhammad qui arrive sur short notice, puis qui va affronter Leon Edwards, et puis c'est un combat très dangereux, honnêtement, pour Leon Edwards. Je pense pas que Belal Muhammad, c'est un bon style match-up pour lui. Je sais pas s'il y a le niveau technique, le niveau athlétique pour battre Leon Edwards, mais je pense que si tu mettais deux gars là, qui sont physiquement semblables, qui ont les mêmes attributs, puis tu mets ces deux styles de combattants là, un contre l'autre. Je pense que le style match-up avantage peut-être Belal Muhammad ici, là, honnêtement, parce que Leon Edwards, il est reconnu comme étant un all-around guy. C'est vraiment probablement le meilleur all-around guy avec un Mighty Mouse, puis les plus grands champions, là, mais dans les gens qui ne sont pas champions, un des meilleurs all-around guys. Le gars est arrivé comme un striker élite. Bon striker, patient, qui place bien ses shots, qui travaille bien en combinaison, qui est rapide, qui se déplace bien, qui fait, tu sais, techniquement tout bien debout. Puis on l'a vu dans ses premiers combats avoir un peu de difficulté avec les grapplers. Puis il s'est mis à travailler sur sa lutte, puis sur son grappling. Puis vers la fin là, de sa run de victoire absolument incroyable, c'est vraiment l'aspect de sa game qui était le meilleur. Sa lutte et son grappling, c'est avec ça qu'il était capable d'aller chercher des combats. Le dude, il a out-wrestle Gunnar Edwards, Gunnar l'Islandais, là. Nelson, Gunnar Nelson, pendant genre, quasiment la majorité de leurs combats. Donc, Leon Edwards, vraiment un combattant qui est all-around, qui est très intelligent aussi, puis qui arrive avec un bon game plan, puis que chaque phase du combat mène l'une dans l'autre de façon genre, qui marche vraiment très bien. Là. Ça, quand même, a un très bon flow entre les phases, puis il est capable de switch up dans un instant comme ça pour changer le momentum du combat. Je pense que l'issue de ce combat ici, ça va être la lutte. Honnêtement, je pense que le meilleur lutteur va gagner parce que Belal Muhammad va mettre de la pression. C'est ça qu'il fait. Belal Muhammad met de la pression, lance un énorme volume de strike parce qu'il a un excellent cardio puis il est excessivement durable puis quand même bon défensivement. C'est pas quelqu'un qui prend des risques trop inutiles, Belal, en général, mais le fait qu'il met beaucoup de volume nécessairement va se faire counter une fois de temps en temps. Donc, combattant très, très, très durable avec un excellent cardio. Fait que je pense que ça va être important pour Leon Edwards, qui va nécessairement vouloir se battre sur le back foot ici, bien qu'il est confortable là, généralement en faisant ça. C'est ça qu'il devrait vouloir faire dans ce combat-là. Puis la clé, là, le X-Factor, ça va être est-ce qu'il va être capable de take down Belal Muhammad assez pour remporter les rounds de ce combat-là, ou le volume puis la pression de Belal Muhammad va être trop pour Leon Edwards qui, comme je dis, c'est raide de revenir d'un an et demi sans se battre, puis se battre contre genre une machine de volume puis de cardio comme Belal Muhammad. C'est tout un match-up. Mais pour vrai, Leon Edwards a prouvé qu'il était élite. Il a prouvé que les seules personnes qui pouvaient les battre, là, même, tu sais, avant cette séquence de victoire-là, je pense que sa dernière défaite, c'est Kamaru Usman. Donc, déjà, v'là quelques années, le 5-6 ans, perdait que contre la compétition élite. Donc, le lay-off me fait douter. Je ne vous le cacherai pas, mais je vais quand même y aller avec Leon Edwards ici par décision. Ça nous mène au co-main event de la soirée. Premier combattant, ben le dernier en fait combattant canadien en action, mais le premier duquel on va parler aujourd'hui. Misha Tsirkunov affronte Ryan Spann à 205 livres. Et puis ce combat-là, c'est pas compliqué. Est-ce que Misha Tsirkunov va soumettre Ryan Spann avant que Ryan Spann le knock? C'est ça. Parce que Misha Cirkunov, on va se le dire, c'est un excellent grappler. Beaucoup de façons d'amener le combat au sol. C'est autant un bon lutteur qu'un judoka, que quelqu'un qui est capable d'aller chercher des bons body lock avec des trips. C'est beaucoup de façons différentes d'amener le combat au sol. Puis il n'y aura pas peur, là, dès le début du combat, d'y aller. Parce que oui, c'est boxé, mais c'est stiff ce qu'il fait debout. Puis son plus gros problème, puis ce qui fait qu'il va toujours être un top 15 fighter, mais pas vraiment à plus, c'est son menton. C'est un combattant que si tu le frappes bien comme il faut, habituellement, généralement, tu devrais être capable de le finir. Puis Ryan Spann, c'est quelque chose qui fait très bien knocker des gens au premier round. C'est un combattant qui est très explosif, qui fight en burst, puis qui frappe fort, frappe très très fort pour un 205 livres. Cependant, pas le meilleur des grapplers, on l'a vu auparavant, puis un combattant qui est facile à overwhelm s'il arrive, puis ça marche pas automatiquement bien comme il veut que ça marche. Des fois, un peu de la misère à s'adapter puis à changer un peu sa stratégie dans le combat. Des fois, il arrive avec une idée de ce qu'il veut faire puis ça marche pas, il est comme « Oh, je, ça marche pas, on fait quoi? » Misha Cirkunov va poursuivre le takedown agressivement dans ce combat-là. Comme je vous dis, c'est un gamble. Est-ce qu'il va réussir à le takedown? D'après moi, le takedown, une fois, il y a des bonnes chances qu'il le soumette. S'il réussit pas le takedown, cependant, des bonnes chances qu'il se fasse knocker. J'ai Misha Cirkunov par soumission au premier round. Et ça nous mène à un des combats sur lequel je veux m'attarder parce que c'est un fight, un sale fight. Danny Gay, Gavin Tucker, le Canadien, qui va avoir une chance là, d'être un combattant ranké s'il gagne ce combat-là. Et puis contre Danny Gay, c'est tout un match-up. Pour être honnête, là, ça va probablement être le combat de la soirée. Parce que non seulement tu as des enjeux, tu as deux combattants qui sont toujours excitants, puis, tu sais, c'est un combat tout près de l'élite, là. Comme je dis, le gagnant de ce combat-là va se retrouver comme dans le top 15 puis va être prêt à aller de l'avant avec des match-ups. Je pense que je favorise Gavin Tucker ici parce que, admettons que ça se passait il y a 2 ans, il y a 3 ans, dans le temps qu'on a vu Tucker arriver avec sa grosse performance puis après, il a perdu contre Rick Glenn puis il n'était pas encore au Tristar. J'aurais peut-être donné l'avantage à Ige ici parce qu'Ige met beaucoup de pression. C'est un bon counter-puncher quand même debout, mais fonctionnel. Je ne dirais pas bon, c'est pas un très bon striker, mais c'est un striker fonctionnel qui sait ce qu'il veut faire puis c'est exactement ça qu'il fait. Puis il n'essaie pas de faire du fluff-là puis d'y aller avec des affaires qui n'est pas dans sa game. Il essaie de s'en tenir à sa game, lander des gros counters sur son adversaire, mettre beaucoup de pression, essayer d'amener le combat au sol où c'est un très bon submission grappler. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas un bon cardio. Puis on a vu contre Calvin Kattar que malgré le fait qu'il n'y a pas un bon cardio, ça reste un fighter, quelqu'un qui a beaucoup de guts puis qui va continuer de travailler fort même si son output n'est plus autant efficace que dans les premiers rounds. Mais il y a une diminution de régime, là. Danny Gay, il n'y a aucun doute qu'il n'est pas vraiment capable de maintenir le pace qu'il essaie d'imposer. Puis Gavin Tucker est tellement rendu un bon lutteur. Tu sais, dans ses derniers combats, c'est lui qui a emmené le combat au sol. Il a réussi à dominer, continuer à dominer des gens debout parce que son mouvement est autant solide debout. Son jab est encore meilleur depuis qu'il est au Tristar. Fait qu'il est à la fois capable d'être un combattant excitant comme il était debout, mais un combattant intelligent aussi debout. Puis son sol est vraiment de mieux en mieux. Jusqu'à me demander s'il devrait, tu sais, ne pas hésiter à shooter des takedowns ici et là sur Danny Gay puis s'installer sur le top puis essayer de travailler. Parce que je pense qu'il est capable. Je pense que c'est pas si dangereux que ça, considérant les aptitudes en grappling des deux. Fait que pour cette raison-là, je vais y aller avec Gavin Tucker par décision. Ça nous mène à un autre bon petit combat, ça risque d'être le fun. Jonathan Martinez, Davy Grant. Davy Grant est vraiment bizarre, c'est un gars qui est arrivé comme un guard grappler dans l'UFC. Puis récemment, quand même, réussi à établir une bonne petite striking game fonctionnelle que, un peu comme Jonathan Martinez, en fond, il a juste l'air d'être là, puis de travailler, puis de pas nécessairement, tu sais, battre son adversaire tant que ça. Puis là, un moment donné, boum, il sort quelque chose, un petit hook que son adversaire ne va pas venir, puis bang, il réussit à aller chercher un coach. Jonathan Martinez, même affaire, tu le vois, puis il est at range, puis il travaille bien debout, mais c'est pas le plus beau striker que j'ai vu, tu sais, il est juste vraiment efficace. Puis là, un moment donné, il a une chance de rentrer dans le clinch, puis de caler sur un coup de genou dans la face, puis il te knock complètement. C'est comme ça qu'il a réussi à battre tous les gars qui ont fini dans l'UFC. Puis, comme on a vu, tu sais, je veux pas mettre trop de stock dans sa victoire contre Thomas Almeida parce que Thomas Almeida n'est plus Thomas Almeida, mais c'est quand même une bonne victoire, le fait qu'il ait réussi à garder un bon game plan constant pendant 15 minutes puis qu'il ait réussi à outstriker un combattant qui n'a pas été en mesure de finir. C'est un bon look pour l'avenir parce qu'on l'avait déjà vu comme s'il finissait pas le combat, perdre les décisions. Vous avez des décisions serrées, c'est contre André Soukamta, il n'aurait pas dû perdre ça, mais il a tout juste perdu ce combat-là parce qu'il n'a pas été capable de de faire assez de choses pour avoir les points sur les scorecards. On a vu une amélioration à ce niveau-là, fait que je pense que j'étais assez confiant pour ce combat-là en faveur de Jonathan Martinez par décision, parce que les deux sont assez tough. Ensuite, Manel Cape, Matheus Nicolau, drôle de combat. Bon combat, flyweight, mais drôle de combat de style, parce que t'as Manel Cap qui va essayer de faire plein de styles d'affaires, puis flyer, puis être créatif. Puis t'as Matheus Nicolau qui, lui aussi, est un striker, mais il est vraiment bread and butter. Ce gars-là me fait beaucoup penser, en fait, à Renato Moicano, dans le sens que c'est un bon striker efficace qui va pas dans le fluff, là, les spinning shit, toutes ces affaires-là. Garde ça bien bread and butter, des punch dread, des kicks, des coups de genoux, beaucoup de leg kicks. Travaille bien, garde un bon pace, capable de finir ses adversaires autant debout comme au sol, mais quand ils perdent, ils se font knocker bien raide. C'est pas mal ça qui arrive dans le cas d'autant Renato Moicano que Matheus Nicolau. Puis Manel Cap va sûrement être capable d'être at range puis de lander de quoi de complètement ridicule un moment donné dans le combat. Est-ce qu'il va réussir à le finir? Peut-être, mais si je regarde le combat dans un ensemble et la manière que les deux travaillent, il ne peut pas vraiment le favoriser ici. Fait que j'ai Matheus Nicolau par décision, mais c'est un combat où si Cap gagne, il résout le knock et bien rap. Fait que à voir. Ensuite, premier combat de la main card. Un classique middleweight, Eric Anders, Darren Stewart. Puis quand Eric Anders est arrivé dans l'UFC, j'étais là, ce gars-là, il a comme tout l'athlétisme du monde, puis il a absolument rien d'autre, mais ça fait que c'est un bon prospect, parce que s'il apprend le reste, il va devenir bon. Puis là, nous voilà une couple d'années plus tard, puis il est encore la même crise d'affaires, il a absolument rien appris, ce gars-là, aucune game, il est 100% athlétisme, 0% du reste. Puis Darren Stewart aussi était ça. Puis il a comme déconstruit ce game-là pour devenir un fighter MMA plus intelligent. Puis oui, ça lui a donné 6 défaites dans son chemin. Mais depuis, à part quand il affronte vraiment quelqu'un qui peut l'out-grapple solidement, qui est un meilleur lutteur que lui, on ne le voit plus vraiment perdre ces combats-là. Puis il est vraiment devenu un fighter plus intelligent, qui garde mieux, qui gère mieux sa tank d'énergie, puis qui est capable de choisir le moment pour y aller avec son gros burst de power, de « Ah, check ça, je suis un all-king fighter qui est capable de knocker tout le monde. » Puis aussi, il est rendu capable de lutter offensivement et défensivement, pas contre les meilleurs, mais Eric Anders. Fait que j'ai 100% à Darren Stewart là, dans ce combat-là par décision. Aucun doute là-dessus. On tombe ses prelims. Ashley Yoder, Angela Hill. J'en ai parlé la semaine passée, l'autre d'avant. Je ne sais pas trop si c'est supposé avoir lieu. Angela Hill par décision. Allons-y. Le combat que vous voulez entendre parler, Charles Jourdain, Marcelo Rojo. C'est un peu le même genre de combat que l'autre d'avant pour Charles. Genre de combat qui est supposé de gagner, qui arrive largement favori, puis que c'est comme un peu sur lui que le spotlight est dans ce combat-là. Parce que Marcelo Rojo, c'est un bon journeyman qui vient de l'Amérique latine. Là, c'est un Argentin, il se battait sur Combate récemment, mais avant ça, il se battait plus sur la scène latino-américaine. Et puis, tu sais, il arrive avec une fiche de 16-6. Quand même, plusieurs défaites. Si tu regardes, c'est absolument tout par soumission, toute la gang. C'est un bon striker, je vous dirais, mais a tendance à rester à range et essayer de leap in avec une grosse power shot pour faire mal à son adversaire, puis le reset, puis essayer de faire la même chose. Va essayer de plus de placer ses shots que de lander des combinaisons, puis que s'il y a comme deux punches qui passent sur les quatre qu'il lance, il est content. T'sais, c'est vraiment plus un pick your shot at range fighter qui n'a vraiment pas un bon takedown defense, puis qui n'a vraiment pas un bon grappler en général. Puis tabarnouche que c'est un moment-là que j'ai envie que Charles fasse un peu l'évolution dans sa game de combattant très spectaculaire qui va nous offrir des wow moments dans tous ses combats, mais que ça va être un action fight back and forth serré à combattant qui est capable de reconnaître une opportunité de gagner un combat puis qui peut juste la prendre puis le faire. Tu sais, Joshua Colibau, là, à seconde près que ce combat-là a touché le sol, Charles Jourdain, il t'a le moppé bien raide. Puis il a quand même fallu que ce soit Colibau qui ramène le combat au sol pour que Jourdain continue de le mopper au sol au troisième round puis qui aille probablement chercher le 18 qui, ben, fait pas probablement, là, qui aille chercher le 18 qui a donné le draw dans ce combat-là. Donc, faut qu'il aille au sol, c'est pas compliqué, mais il faut qu'il initie un takedown puis qu'il soumette Marcelo Rojo, parce que je suis sûr qu'il peut le péter debout, là. Tu sais, j'ai aucun doute là-dessus que c'est un striker plus créatif, plus explosif, va être immensément plus grand, parce que ce que j'ai pas encore dit, c'est que Marcelo Rojo, là, c'est un bantamweight. Basically, c'est un combattant bantamweight qui est sur short notice, une division up. Fait que non seulement Charles se bat même pas contre un gars qui est dans sa division, mais il va avoir beaucoup de reach sur lui, il va être plus explosif, plus créatif, probablement plus puissant que lui debout. Mais Rojo étoffe, ne s'est jamais fait passer le KO dans sa vie, puis va vraiment être game là, d'échanger des power shots à range avec Charles Jourdain, puis d'essayer de trouver une combinaison qui va l'amener ou d'essayer de trouver quelque chose qui va faire mal à son adversaire. Donc, il y a moyen que ce soit un bon combat debout, back and forth, où Jourdain a probablement plus de wow moments que son adversaire, puis réussit à gagner, ou ça peut être un combat que Charles Jourdain amène au sol, puis soumet son adversaire, puis gagne ça assez facilement, puis se pousse avec son win bonus assez rapidement. C'est all business, get in, get paid, get out. Pas compliqué. Ça pourrait être ça. Puis c'est ça ma prédiction, là. Basically, je pense que je vais donner un round à Charles pour s'amuser. Fait que j'ai Charles Jourdain par soumission au deuxième round, mais il faut qu'il profite de ça. Tu sais, même John Castaneda, là, qui est plus un striker que d'autres choses, qui vient de battre Eddie Wineland, a battu Marcelo Rojo par soumission. Il n'y a pas plus tard que v'là deux combats pour Rojo. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis oui, une autre affaire qui est un gros facteur dans ce combat-là, c'est comment Marcelo Rojo défend aucun body shot, jamais. Puis on le sait que Charles, il aime ça, être at range, puis travailler en arrière de ses kicks, puis lancer des gros kicks qui font mal aux avant-bras. Mais là, il ne lancera pas des avant-bras parce que le dos, il ne les bloque pas. Fait qu'il risque, ça se peut qu'il te le plie en deux avec un body kick aussi. Ça pourrait être assez hilarant. Mais j'ai Jourdain, soumission, round 2, ici. Ensuite, Rani Yaya. Ray Rodriguez. Je sais pas ce que Ray Rodriguez a fait parce que tabarnouche, man. Il arrive dans l'UFC, il se fait insta choke par Brian Keller. Fait qu'à son deuxième combat, il donne probablement le meilleur fighter de jiu-jitsu de la division. Fait que ma prédiction ici, évidemment, c'est le calice de Rani Yaya par soumission au premier round. Shout out à Charles qui est en train d'écouter live, man. Asti. Let's do it, Jourdain gang. Ça, c'est une crise de fight là. Ensuite, Nasrat Akparas, Rafa Garcia. C'est un bon fight. Je suis content de voir Rafa Garcia dans l'UFC, mais Rafa Garcia, il a comme un problème qui n'est pas de sa faute. C'est son corps. Le gars est vraiment trop petit pour être un lightweight, mais je pense qu'il est trop thick pour être un featherweight. Fait qu'il va se retrouver, genre, avoir beaucoup d'ennuis quand il va affronter les Nasrat Akparas de ce monde. Puis, calisse que c'est rough affronter Nasrat Akparas sur short notice à ton premier combat dans l'UFC. Mais, non, c'est ça. Garcia, il est bon, puis l'affaire, c'est qu'il a besoin de se battre dans la pocket, il a besoin de se battre rapproché dans le clinch, amener ça au sol. Puis ça va être dur contre Nasrat, qui bouge super bien, que son jab est absolument incroyable, qui est rapide que le Saint-Christ, puis et qui va danser des cercles alentour de lui en le taguant solidement, qui va probablement l'allumer bien raide. Fait que, calice, j'ai Nasrat Akparas dans ce combat-là, par TKO, deuxième round. Puis comme je dis, si Rafa Garcia, somehow, peut faire 145 livres, je vais vraiment être excité pour lui dans l'UFC, parce que c'est un Mexicain invaincu qui se bat comme un malade mental autant debout qu'au sol, puis qui pousse un gros pace, puis qui essaie de rendre ça intéressant, puis brawler, tu sais. Mais contre Nasrat Akparas, tu penses qu'il va arriver quoi? Il va complètement se faire déchirer. Ensuite, Courtney Casey, J.J. Aldrich. Ce combat-là, là, je sais, c'est bizarre, OK? Parce que Courtney Casey, c'est la grosse combattante. T'sais, tu le sais, à 115 livres, c'était genre, elle avait pas d'affaires dans cette weight class-là. Elle était deux fois plus grosse que toutes les autres combattantes. Puis elle perdait parce qu'elle a aucun takedown defense, mais ceci étant dit, on a toujours vu Courtney Casey comme étant énorme. Puis J.J. Aldrich, elle a commencé à 135, puis elle a toujours été vue comme la tout petite combattante, mais qui est vite et puis qui est rapide. Puis là, les deux se mettent à 125, puis je pense que c'est la 115 qui va être plus grosse que la 135 quand même, là, parce que j'ai de la misère à voir un monde où Courtney Casey n'est pas gigantesque. Mais tu vas avoir Casey qui va essayer de bully son adversaire. Tu vas avoir J.J. Aldrich qui va circle around the cage puis essayer de lander du volume et être plus rapide que ce que Courtney Casey. Puis je pense qu'elle va réussir. Si elle ne réussit pas, ben ça va être drôle parce qu'un combat de Courtney Casey, c'est toujours drôle. La fille, elle est partout en étant nulle part en même temps. Elle n'a aucune takedown defense, mais est aussi bonne, genre, pour au sol, elle est bonne pour sweeper étrangement son adversaire. Tu sais, genre des sweeps que tu vois pas souvent puis que tu as de la misère à voir venir par un moment donné, pour sweep out of nowhere. Elle a des estis longues cannes aussi, fait que c'est butterfly, oups, ces choses-là sont quand même efficaces. Fait que c'est quand même une bonne combattante avec des flas vraiment très clair, Courtney Casey. J.J. Aldrich, c'est la bonne combattante qui n'a pas beaucoup de flas, sauf le fait qu'elle est tout petite et qu'elle n'est pas très physique. Puis quand elle affronte les grandes athlètes là, dans cette division-là, c'est plus difficile pour elle. Mais je pense pas que Casey, c'est une grande athlète. Elle est juste grosse et intimidante, mais c'est pas nécessairement une fille qui est super explosive et athlétique. Donc, j'ai J.J. Aldrich par décision. Ensuite, Gloria DePaula, Jenny Frey. Ça, là, c'est le combat qui s'appelle Jenny Frey. Si tu perds ça, tu t'en vas. pas compliqué. Gloria de Paula est 5-2. Elle a gagné un combo Contender Series où elle se faisait complètement ragdoll parce qu'elle est tellement petite pour 115 livres que ça serait une petite 105 livres. Puis Jin Ufrey, c'est une 105 livres, mais c'est une grosse 105 livres, qui est une petite 115, mais pas la plus petite des 115, surtout quand t'as des Gloria de Paula dans cette division-là. Ce qui me gosse, c'est que Jin Ufrey a quand même perdu contre Loma Lumbumé, qui est la plus petite de toutes les 115 livres de loin, mais qui est très bonne, là, par exemple. Vraiment très bonne, mais c'est une toute petite Thaïlandaise. Genre vraiment très bonne en Muay Thai, évidemment, mais pas super difficile à handle. Justement, je l'avais vraiment mal contre Courtney Casey, là, disons ainsi. Elle a réussi à battre Jin Ufrey, fait que il y a quand même un petit peu d'inquiétude pour Jin Ufrey ici dans ce combat-là, mais de pas là, non seulement elle est minuscule, pas très athlétique, mais elle est raw. Vraiment très, très raw. Je pense qu'elle aurait grandement bénéficié d'une coupe de combat d'expérience de plus avant de rentrer dans l'UFC. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai Jin Ufrey ici là, qui est par décision. Je pense que c'est le pic conservateur. Ensuite, Matthew Summersberger, Jason Witt. Bon petit combat en opener parce que tu as Matthew Summersberger qui est le gars chez qui on voit de belles choses. Il y a un genre de striking. Tu sais, il est très grand, le mesure 6 pieds 1 pour la division. Puis c'est un genre de gars qui est fait sur le long, qui génère du weird power au bout de ses punches, puis tu comprends pas pourquoi, parce qu'il a pas l'air de tant mettre rien dans ses punches, mais quand il se retrouve au bout de ses punches, clairement, ça fait assez mal. Le seul problème, c'est qu'il y a une fiche de 7-2, il y a un combat dans l'UFC, c'était contre Carlton Minus, qui, à part son nom, a pas grand-chose, et puis c'est déjà fait cut de l'UFC, là, d'ailleurs, le pauvre Carlton, là, mais je considère pas ça comme étant un UFC-level win, donc Matthew Summersberger doit me prouver qu'il peut battre des combattants de l'UFC. Puis Jason Witt, oui, s'est fait allumer en quelques secondes par Takashi Sato, mais dans son autre combat d'après, contre un gars que je considérais pas UFC level, comment c'est Cole Williams, quelque chose Williams, je pense que c'est Cole Williams, oui. Je ne le considérais pas vraiment UFC level. Jason Witt l'a complètement outgrapple, le sévèrement, il a foutu là, une de ses raclées. Puis je pense que je vais y aller avec Witt ici, puis pour un facteur externe, qui est le James Krause effect. James Krause, là, oui, il a des très bons prospects, il a un très bon gym, mais on dirait que le core de son gym, puis ce qui fait qu'il pousse vraiment son gym en ce moment vers le haut, c'est ces vétérans-là qu'on devait jamais voir dans l'UFC vraiment, puis qui sont dans l'UFC, puis qui ont du succès. Je parle de Jason Witt, Kevin Kroom, Derek Minner, tu sais, ces gars-là qui sortent de nulle part, qui arrivent avec des fiches de justement 18, 6, 25, 11, des choses comme ça, puis qui ont du succès un peu out of nowhere dans l'UFC, puis ont l'air de tout pousser en même temps ensemble, puis avoir du momentum d'équipe, puis James Krause qui réussit vraiment à apporter un élément différent à leur game, qui font que ces gars-là gagnent dans l'UFC. Fait que j'ai Jason Witt, basically, qui est un wrestle boxer, puis je pense qu'il va out-wrestle Matthew Summersberger pour une décision ici. Puis c'est ça, ça conclut mes analyses et prédictions pour la carte de l'UFC Vegas 21. Edwards contre Muhammad, gros main event, gros combat entre Gavin Tucker et Danny Gay. Ça va être un highlight sur cette carte-là, mark my words. Et puis évidemment, Charles Jourdain contre Marcelo Rojo sur les prelims qui va probablement commencer là, notre soirée sur le bon pied. J'en suis pas mal assez confiant. Très bon match-up pour Charles, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, vous le savez, je vais être live. Je vais faire un live pour le combat de Charles. Donc, 6h, les prelims commencent. La main card à 8h, c'est le deuxième combat. Donc, vers 7h15, 7h30 environ, juste après le combat de Rani Yahya. En fait, dès que ça va se conclure, je vais commencer le live, laisser le temps au monde d'arriver, puis on va pouvoir tout réagir au combat de Charles Jourdain ensemble, comme on le fait toujours. Fait que soyez là. Et puis, ben, c'est ça. À demain.